Merci d'écouter RFI. Il est 10h30 ici à Paris, 9h30 en temps universel.
Alexandra Cagnard.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal en français facile, un journal présenté avec Adala Benhad. Bonjour.
Bonjour.
Et on commence par les titres de l'actualité de ce mercredi 26 mars.
Arrivé à Londres dans quelques heures pour Nicolas Sarkozy et son épouse.
Une visite officielle de 2 jours pour relancer les amitiés et les relations diplomatiques franco-britanniques. Au programme, carrosse royale, dîner à Windsor et demain, entretien avec le Premier ministre Gordon Brown.
Le colonel Bakar toujours introuvable sur l'île d'Anjouan aux Comores.
Une partie des hommes du colonel résistent toujours face aux troupes de l'Union africaine alliées aux soldats de l'armée fédérale comorienne. Ils ont débarqué hier pour prendre le contrôle de l'île et le chasser du pouvoir. Lui, le colonel Bakar, reste caché.
Et du football ce soir, un match amical de préparation à l'Euro 2008 pour l'équipe de France.
Elle rencontre l'Angleterre au Stade de France. Après le match, l'entraîneur Raymond Domenech devrait dévoiler la liste des 23 joueurs retenus pour le premier match contre la Roumanie. Ce sera le 9 juin à Zurich.
RFI, le journal en français facile.
Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Minsk hier en Biélorussie, opposant au président Loukachenko. Ils ont tenu à marquer les 90 ans de la déclaration d'indépendance de la République de Biélorussie.
Souvent appelée la dernière dictature de l'Europe, les mouvements de protestation sont nombreux dans cet État où le président Loukachenko, réélu il y a 2 ans, impose sa politique très autoritaire. Hier, alors que les opposants tentaient une nouvelle fois de se rassembler, ils ont été frappés à coups de matraque par la police anti-émeute. Les précisions de Thierry Parizeau à Moscou.
80 arrestations, selon le ministre de l'Intérieur, pour résistance active aux forces de l'ordre. En fait, de résistance active, on a surtout vu dans les rues de Minsk une manifestation réprimée sans ménagement, à coups de matraque par les forces anti-émeutes. Les opposants, beaucoup de jeunes, ont bravé l'interdiction qui leur était faite de se rassembler. Ils ont commencé à se réunir avec pour seul slogan les drapeaux européens qu'ils brandissaient. Le peintre et militant de l'opposition qui avait préparé les banderoles et les affiches s'est fait arrêter la veille dans son atelier. 5 jours de garde à vue et matériel saisi. Plusieurs milliers de personnes ont tout de même participé à la manifestation non autorisée. Les principaux dirigeants de l'opposition étaient là pour dénoncer le régime dictatorial du président Loukachenko. Ils n'ont pas été interpellés. Les 80 personnes conduites dans des commissariats ou directement dans des prisons seraient toutefois, selon la police, des militants actifs. Nous les connaissons tous, dit un porte-parole des forces de l'ordre, grâce aux informations que nous avons récoltées sur les sites internet de l'opposition. Thierry Parizeau, Moscou, RFI.
Et le scrutin de 2006 qui a vu la réélection d'Alexandre Loukachenko est toujours contesté par le Conseil de l'Europe et l'OSCE. Les États-Unis aussi ne l'ont jamais vu d'un très bon œil. Les relations ne sont pas bonnes entre les deux pays. Les Américains ont décidé de réduire le personnel de leur ambassade. D'ici demain, une 20aine de diplomates vont quitter le pays.
Cela faisait 18 mois que la Russie imposait un blocus à la Géorgie, mais hier, les autorités russes ont décidé de rétablir les liaisons aériennes à leurs voisins.
Un signe de détente dans les relations diplomatiques entre les deux pays, une détente qui date du début de l'année quand le président géorgien Mikhail Saakashvili a été réélu.
Le président français Nicolas Sarkozy et son épouse arrivent dans 2 heures à Londres. Une visite d'État de 2 jours.
Une visite avec tous les honneurs britanniques, comme le veut la tradition. Et c'est en carrosse royale que le couple se rendra au palais de la reine Elisabeth II. Dans la soirée, ils dîneront au château de Windsor, où ils doivent aussi passer la nuit. Une visite destinée à réaffirmer les relations très amicales entre la France et la Grande-Bretagne.
Demain, Nicolas Sarkozy doit s'entretenir avec le Premier ministre Gordon Brown sa résidence du 10 Downing Street.
Les deux hommes évoqueront plusieurs dossiers, dont celui de l'Afghanistan, où la France s'apprêterait à envoyer 1000 soldats supplémentaires. Au programme aussi la réforme des institutions internationales. Il devrait également parler de la répression chinoise au Tibet, alors que la plupart des dirigeants mondiaux se sont prononcés contre le boycott de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Hier, Nicolas Sarkozy, lui, laissait planer le doute sur cette éventualité. C'était la première fois que le président français prenait clairement position sur ce sujet. Et il n'est pas le seul, Patrice Bianconne. Alain Juppé aussi a tenu à montrer sa fermeté dans ce dossier.
Eh bien, pour Alain Juppé, l'idée de réclamer de la modération, comme l'ont fait les Européens dans l'affaire tibétaine, est une mauvaise idée. En somme, dit Alain Juppé, nous demandons au pouvoir de Pékin de tuer avec retenue. Fort de sa position, le récent vainqueur de Bordeaux montre ainsi qu'il a une autre conception de la France et de son rôle dans le monde. D'ailleurs, il a fustigé la pratique de la réalpolitik, une flèche destinée très directement à Nicolas Sarkozy, ce qui a poussé le chef de l'État à évoquer la possibilité d'un boycottage de l'ouverture des Jeux Olympiques et à préciser que lorsqu'Alain Juppé était Premier ministre, le problème du Tibet existait déjà et que cela ne l'avait pas empêché d'aller en Chine. Ambiance lourde donc, et ce d'autant plus que ces critiques ont été relayées à l'Assemblée nationale. Ainsi, le président du groupe d'études sur le Tibet, Lionel Lucas, un député UMP, a eu hier matin des propos très durs contre Bernard Kouchner, parlant même de collaboration. Et l'après-midi, c'est le même Lionel Lucas, mandaté par son groupe, qui a poussé le même Bernard Kouchner à durcir le ton vis-à-vis de la Chine, une démarche qui traduit le malaise des élus UMP face à la position française.
Merci Patrice. C'est aujourd'hui que le constructeur automobile indien Tata devrait annoncer le rachat des marques britanniques Jaguar et Land Rover.
Tata, c'est le producteur de la Nano, la voiture la moins chère du monde. En rachetant les deux britanniques qui appartiennent au groupe américain Ford, il va rentrer dans le difficile secteur des voitures de luxe. L'agence officielle de presse indienne évalue cette opération entre 2 et 2 milliards et demi de dollars.
À Bassora, en Irak, les combats qui opposent depuis hier les forces de l'armée irakienne et l'armée chiite du Mahdi de Moqtada Sadr ont fait, selon un dernier bilan, 20 morts et plus de 100 blessés.
Parmi eux se trouveraient de nombreux civils, des femmes et des enfants. Ce matin, les combats ont repris à Sadr City. Les écoles et les administrations publiques restent fermées et la grande majorité des boutiques conservent leurs rideaux de fer baissés. Le Premier ministre Nouri al-Maliki a donné 72 aux activistes de Bassora pour cesser le combat. Hier, Moqtada Sadr menaçait de grève générale si l'armée continuait de s'en prendre à ses hommes. Et puis, une opération aérienne américaine a visé ce matin la ville de Tikrit, au nord de Bagdad. Tikrit, fief de l'ancien dictateur Saddam Hussein. 8 personnes ont trouvé la mort, tous des civils.
Depuis hier, l'île d'Anjouan aux Comores est sous le contrôle des troupes de l'Union africaine et de l'armée fédérale comorienne. Mais on est toujours sans nouvelles du colonel Mohamed Bakar.
L'objectif du débarquement d'hier sur la petite île de l'océan Indien était de chasser du pouvoir le colonel Bakar. Celui-ci se trouverait toujours sur l'île mais resterait caché. Les forces africaines sont à sa recherche et ce matin, les tirs ont repris en direction des hommes fidèles au colonel qui résiste toujours. Ancienne colonie française, les Comores sont indépendants depuis 1975. Se pose alors le rôle de la France dans cette crise comorienne. Les explications de Philippe Lémarie.
Alignement, cela a été le maître mot de la diplomatie française dans cette crise. Derrière le président Abdallah Sambi, défenseur d'un retour à la légalité à Anjouan et de l'intégrité de l'Union, et derrière l'Union africaine qui cherche depuis plus de 10 ans à ramener la concorde au sein de ce qu'on appelait l'archipel au sultan batailleur. C'est à la demande de l'UA justement qu'un Airbus et un Transal de l'armée de l'air française ont transporté à la mi-mars 350 soldats tanzaniens et leur matériel entre Zanzibar et Moroni en 3 rotations, mais jamais il n'avait été question d'appuyer militairement les assaillants, alors que la France dispose d'une unité de la Légion à Mayotte, d'un régiment para à La Réunion et de moyens navals conséquents dans l'océan Indien. Paris n'entretenait aucun rapport particulier avec le président Johannes Mohamed Bakar, pourtant formé dans les écoles militaires françaises, mais la gestion d'un flux constant d'émigrés clandestins cherchant à atteindre Mayotte, l'île comorienne restée française, a contraint la préfecture de Mayotte justement à entretenir des rapports suivis avec l'administration anjouanaise.
Le réchauffement climatique commence à avoir des conséquences directes sur l'Antarctique.
Un pan entier de la banquise représentant 4 fois la superficie de la ville de Paris a commencé à se désintégrer sous l'effet du réchauffement. Des observations faites par l'Université du Colorado grâce à des images satellites. 414 km² ont déjà disparu sur les 12 950 km² que compte la plus grande banquise de l'Antarctique.
La télévision française a perdu l'un de ses journalistes sportifs les plus connus.
Thierry Gilardi, qui commentait le football sur la chaîne TF1, est décédé hier après-midi d'une crise cardiaque. Il était âgé de 41 ans. Le président de la Fédération française de football a déclaré qu'il allait demander que soit faite ce soir au Stade de France une minute de silence en son hommage. Le stade accueille la rencontre amicale entre la France et l'Angleterre, un match de préparation à l'Euro 2008 qui débute dans 2 mois et demi. RFI, les 10h40. À Paris.